tous. Selamünaleyküm, chers frères et sœurs. Je m'appelle Ali Sadun. Je suis un membre de la Fondation de la Recherche Scientifique en Istanbul. Et je représente M. Adnan Ortaç. Harun Yahya. Bon, ce soir, on va parler de la théorie de l'évolution, de l'origine de la vie. Mais avant de commencer mon discours, je voudrais expliquer un petit peu l'importance de cette théorie, parce que de temps en temps, excusez-moi. De temps en temps, il y a des personnes qui nous demandent des questions. Est-ce que c'est aussi important que vous payez trop d'attention sur un petit peu l'église? Parce qu'il y a eu déjà plus de 30 ans que M. Adnan Ortaç a fait des efforts sur ce sujet pour refuter scientifiquement la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, c'est une soi-disant théorie scientifique qui est la base de darwinisme et athéisme et matérialisme aussi. Donc, dans le passé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur foi, leur croyance en Allah, juste à cause de cette théorie. Et il y a plusieurs fidèles, croyants, qui sont sans douter de leur croyance. Et c'est pour ça qu'on doit savoir, les musulmans doivent savoir pourquoi cette théorie est très importante et comment le réfuter scientifiquement. Donc, la théorie de l'évolution, selon la théorie, nous sommes descendus, les hommes, l'ancêtre homme, sont descendus, l'espèce homme, descendus d'un ancêtre commun, qui est une forme unicellulaire. Et donc, tous les êtres vivants se sont évolués de cette manière. Donc, je vais expliquer un petit peu. Si on voit un être vivant devant nous, donc, il peut y avoir seulement deux explications, deux alternatives. Soit cet être vivant a été créé, ou soit il est là par les résultats des chances, des coïncidences. Donc, si on peut montrer scientifiquement que les chances, les coïncidences qui sont expliquées par la théorie de l'évolution ne peuvent pas être scientifiquement correctes, donc, on va voir que la création, qui est le seul fait scientifique, Inch'Allah, on verra que c'est Allah qui a créé tout. Et ce fait est accepté aussi par les évolutionnistes. Et ce monsieur-là, c'est Douglas Futuba, hein, est un des évolutionnistes, il est un athée, et il accepte ce fait en ces phrases. Quand nous regardons à la vie sur Terre, si nous voyons que la vie émerge tout à coup avec cette forme parfaite et complète, alors nous devons admettre que la vie est créée non le résultat du hasard. Alors il dit que si nous voyons que la vie émerge, se forme tout d'un coup, on doit accepter, il admet qu'il a été créé et pas le résultat des chances. Donc je vais répéter ce slide encore une fois. Plus tard, quand je parlais de la période cambrienne des Chabot. Donc, nous avons des questions auxquelles les darwinistes doivent répondre. Nous avons trois questions. La première question, si un tel processus évolutif a eu lieu dans le passé, donc, comment se fait-il que la première entité vivante, la vitalité, ça veut dire la première cellule vivante, sur la Terre est formée? C'est la première question. Deuxième question, quels sont les mécanismes de l'évolution? Quels sont les pouvoirs qui poussent ce processus évolutif parmi les êtres vivants, les espèces des êtres vivants? La troisième question, c'est toutes les espèces sur Terre étaient le résultat de l'évolution. Alors, il aurait dû y avoir une vaste quantité de preuves de fossiles. Existe-t-il de tels fossiles? Donc, les fossiles sont les preuves scientifiques qui nous donnent des idées en ce qui concerne les structures. structure organelle des êtres vivants. Est-ce qu'il y a des fossiles qui prouvent ce processus-là? Donc, la première question, donc je vais vous expliquer d'une manière très simple, Richard, je ne vais pas aller très détaillé en profondeur. Si vous avez des autres questions, Richard, après mon discours, on va discuter ensemble. Vous pouvez poser des questions. Là, la question c'était comment se fait-il que la première cellule vivante s'est formée? La réponse par les évolutionnistes c'est très simple. Ils disent que par la chance et coïncidence. Dans les profondeurs des océans, ils disent, la première cellule a été formée. Et la cause, c'était les conditions de temps, ils disent. Les foudres, les pluies, de sales conditions de temps, c'était à la fin, la première cellule vivante s'est formée par chance. C'est le hasard qui est le faux dieu des darwinistes. Les chances ne peuvent pas créer les créatures qui sont très complexes qu'on voit autour de nous, parce que nous savons très bien que dans une seule cellule qui est formée des protéines, il y a une vitalité qui est très très complexe. Donc, une seule protéine réfute l'évolution. Comment? La probabilité de la formation par hasard d'une seule protéine est qui est l'élément de base de la cellule est pratiquement zéro parce que vous avez besoin des autres protéines pour produire un seul protéine. Plus de 100 protéines diverses est nécessaire pour la production. Il faut 100 protéines diverses pour la production d'une seule protéine. Et c'est pas, et ça ne suffit pas. Vous devez avoir toute la cellule vivante avec tous les organelles fonctionnant. Vous avez fonctionné comme ça, et tous les organelles qui sont les nucléus, l'endoplasme, le réticulum, les mitochondries, la salle de la membrane. Bon. Donc, tous ces éléments, tous ces organelles-là, sont nécessaires pour la production d'une seule protéine. Et c'est pas. Il faut bien comprendre, par exemple, les fonctions de ces organelles-là. Disons la membrane de la cellule. Il y a une membrane qui peut réfléchir, qui peut comprendre, qui peut faire des plans pour le futur. Par exemple, s'il y a un virus qui veut rentrer dans la cellule, donc cette membrane peut comprendre, peut voir qu'il n'est pas bon pour la cellule, et donc il ne laisse pas rentrer. Et, par contre, s'il y a un molécule de sucre qui est bon pour la cellule, le membrane comprend tout de suite que c'est pour le bon de la cellule, donc il laisse rentrer. Donc il y a une intelligence dans la cellule. Donc tous ces organelles-là doivent être là, tout fonctionnellement en un seul moment. Donc, si par exemple, vous imaginez un gratte-ciel, un grand bâtiment. Tous les matériaux nécessaires pour construire un gratte-ciel, par exemple, réfléchissons, c'est du fer, par exemple, c'est du ciment, n'est-ce pas? Donc, il y a des fenêtres, des portes, des toits, et même il y a des systèmes de, par exemple, chauffage, il y a beaucoup de systèmes, et imaginez que tous ces éléments, tous ces matériaux qui sont nécessaires, mettez-le dans le milieu de la rue. Et si on attend pour des milliers et des milliers d'années, est-ce que ces matériaux-là vont former un gratte-ciel? Non, c'est pas possible parce qu'on sait très bien que nous avons besoin de l'intelligence, qui sont les ingénieurs. Les ingénieurs doivent faire des plans et nous avons besoin des ouvriers qui vont travailler sur le plan et construire ces gratte-ciel. Donc, si on fait une comparaison, même si vous avez tous les matériaux nécessaires pour produire une seule cellule, disons les protéines, les aminoacides, n'est-ce pas, la mitochondrie, la membrane, et si vous le jetez sur la Terre, ça ne va pas se former une seule cellule. C'est pas possible parce que
La vitalité, c'est quelque chose de différent. On a bien compris que dans le 21e siècle, la vie seulement vient de la vie. Pour avoir une entité vivante, vous devez avoir une autre cellule vivante. La théorie de l'évolution, donc, s'effondre dès le stade initial de la vie. Donc, jusqu'au début, les évolutionnistes n'ont aucune explication sur ce sujet-là. Donc, il n'est pas nécessaire, en fait, il n'est pas nécessaire de parler de puisque si les hommes sont descendus des singes ou pas. Donc, juste à la première stade, juste au début, la théorie de l'évolution a été répétée comme ça. Mais donc, on va continuer, on va vous montrer, Inch'Allah, que les autres explications n'ont aucune valeur scientifique. On a voulu faire une petite expérience, imaginaire bien sûr, et on a voulu tester ce que les évolutionnistes disent. Qu'est-ce qu'ils disent dans un milieu, dans des milliards d'années avant, ils disaient que la première cellule vivante a été formée par chance. Donc, on leur demande, on leur dit, venez dans une laboratoire, prenez un balai comme ça, et n'attendez pas des milliers d'années qu'une seule protéine forme par chance, nous allons vous donner une protéine. Si ça ne suffit pas, nous allons vous donner les aminoacides. Vous pouvez prendre toutes. Donc, mettez-le dans ce balai. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez prendre des autres matériaux que vous voulez. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aller à la Lune. Donc, vous pouvez prendre des autres matériaux. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez chauffer, vous pouvez donner de l'électricité et attendre. Et vous pouvez attendre autour de cette arène des milliers d'années, mais n'importe combien de temps vous allez attendre autour de cette marine, des êtres vivants, par exemple les chats, les chiens, tous ces animaux, le professeur lui-même ne va pas sortir de cette marine. C'est pas possible. Scientifiquement, on a compris que en utilisant des matériaux non vivants, on ne peut pas produire la vitalité. Deuxième question, c'est quels sont les soi-disant mécanismes évolutionnaires? Quels sont les mécanismes qui poussent ce processus, qui forcent ce processus évolutif, qui transforme les espèces à partir d'un à une autre? Ils ont deux explications. Ils disent que ce sont deux mécanismes imaginaires qui sont appelés les mutations et la sélection naturelle. La sélection naturelle, donc les mutations, ils disent, ce sont, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Il faut expliquer. Les mutations sont des changements des places des nucléotides dans l'ADN, dans la structure génétique des êtres vivants. Ce sont A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine, cytosine et guanine. Donc, s'il y a un effet externel, par exemple un effet radioactif, le radioactif vient et déchire ADN, tous les nucléotides, ou bien change les places. On sait bien que la majorité des mutations sont nuisibles, ce que ça veut dire 99% des mutations sont nuisibles et seulement 1% est neutre. Donc, les mutations seulement changent les places des nucléotides, ils n'ajoutent jamais une information nouvelle dans l'ADN, dans la structure génétique des êtres vivants. Donc, chez les êtres vivants, on dit que quand les mutations influencent l'ADN, les changements bénéfiques, il n'y en a aucun. Ils disent qu'il y a des changements bénéfiques. Donc ces changements bénéfiques sont sélectionnés par la sélection naturelle. Donc ces deux mécanismes complémentaires, donc poussent, forcent les êtres vivants, les espèces, à transformer à partir d'une espèce en une autre. Par exemple, ils disent que dans la nature, par exemple, un troupeau de cerfs qui sont menacés d'être attaqués par des animaux sauvages, ils disent, dans le temps, on sait très bien que les individus dans la population du cerf, les faibles et les individus qui ne peuvent pas courir très vite vont être attrapés par les animaux sauvages. Donc, dans le temps, ce troupeau de cerfs vont se former des individus qui courent plus vite. Voilà, c'est vrai. Mais donc, peu importe combien de temps dure ce processus, on sait très bien que les cerfs ne vont jamais se transformer à une autre espèce. Par exemple, disons les zèbres ou les girafes. Pourquoi? Parce que toutes les espèces, entre eux-mêmes, ils ont une limite génétique qu'ils ne peuvent pas dépasser. Je vais expliquer ça en détail pendant les questions et les réponses, Inch'Allah. Donc, la sélection naturelle n'est pas suffisante pour expliquer la transformation des espèces, les grands changements. Et les mutations, comme j'avais dit, sont nuisibles. C'est un évolutionniste, Ranganathan. Il dit sur ce sujet, tout d'abord, les véritables mutations sont très rares dans la nature. On ne peut pas trouver souvent des mutations dans la nature. Et deuxièmement, du fait qu'elles sont aléatoires, la plupart des mutations sont nuisibles, car n'obéissant pas à des changements ordonnés dans la structure des gènes. Le moindre changement aléatoire dans un système extrêmement ordonné se fera de la pire des façons. Par exemple, si un séisme secouait une structure telle qu'un bâtiment, cela entraînerait un changement aléatoire dans les fondations de l'édifice qui, selon toute probabilité, n'apporterait aucune amélioration. Amélioration, c'est un mot qui est très important parce que les évolutionnistes disent que les animaux, les êtres vivants, ce processus, c'est comme monter les escaliers un par un. Donc, ces mutations bénéfiques doivent apporter un avantage pour l'être vivant. Et à chaque nouveau et à chaque escalier, cet animal-là doit avoir un niveau plus élevé comparé au niveau précédent. Donc, les mutations apportent aucune amélioration. Comme je vous avais dit, ils seulement changent les places des nucléotides. Ils n'ajoutent jamais une nouvelle information. Et les évolutionnistes ont fait beaucoup d'expériences dans les laboratoires. Ils ont utilisé les mouches de fruits et les résultats, c'était un échec pour la théorie de l'évolution parce qu'ils n'ont pas obtenu aucune mutation bénéfique dans les laboratoires. Pourquoi la mutation n'est-elle pas une mécanisme évolutionnaire? Si, pour répéter, l'effet direct des mutations est nuisible et les mutations n'ajoutent jamais de nouvelles informations à l'ADN de l'organisme. Ce monsieur-là, il va faire une interview avec Richard Dawkins. Ce monsieur-là s'appelle Richard Dawkins. Il est un professeur à l'Angleterre et il est zoologue. Il est le numéro un athée et évolutionniste dans tout le monde entier. Et dans cette interview, ce monsieur-là, c'est en anglais, peut-être vous n'allez pas comprendre, je vais traduire maintenant. Ce monsieur-là va demander une seule question. Il va dire, professeur Dawkins, pourriez-vous nous montrer un mécanisme évolutionnaire dans la nature qui peut ajouter une information à la structure génétique des êtres vivants? Donc la réponse, on va écouter de M. Richard Dawkins.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
La réponse, il n'y en a aucun parce que Richard Dawkins sait très bien qu'il n'y a aucun mécanisme dans la nature qui peut augmenter, qui peut ajouter une information nouvelle. Donc, Richard Dawkins avait des livres sur ce sujet. Disons, par exemple, le titre c'était Les jeunes égoïstes, si vous vous rappelez de ce film. Mais donc, c'était avant 2 années qu'il a changé la Bible, et maintenant, il dit, il nous donne un autre source pour l'origine de la Bible. Il dit que ce sont des extraterrestres. Des extraterrestres qui ont apporté la première cellule vivante sur la Terre. Donc, Richard Dawkins, ce monsieur-là. Voilà, ce sont les deux tous les mêmes. Il a changé d'avis maintenant. Donc, on continue. La mutation ne sait rien du tout sur la symétrie. Parce que les êtres vivants, chez les humains, chez les autres espèces, il y a une symétrie. On sait très bien que la mutation ne sait rien du tout parce qu'ils sont le résultat des chances, sont hasardeuses. Donc, par exemple, nous avons 2 yeux symétriques, nous avons 2 jambes symétriques. Les valves cardiaques dans le cœur sont symétriques. Et comme vous savez, il y a des dessins des papillons sur les ailes des papillons. Donc ils sont symétriques. Donc les mutations ne sont pas capables de produire une telle symétrie chez les êtres vivants. Donc maintenant je vais vous montrer un autre dessin qui est très très intéressant. Et ce dessin-là réfute totalement la théorie de l'évolution. Pourquoi? Parce que sous ce dessin, il n'y a pas de ADN, il n'y a pas il n'y a pas une structure génétique, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de vitalité. Ce sont les flacons de neige. Voilà. Il y a la symétrie, il y a le nombre d'or, et tous les flacons de neige ont 6 côtés. Vous allez aux États-Unis, vous regardez, les flacons de neige ont 6 côtés. Pas 5, 4, pas triangulaire ou rectangulaire. Toujours 6 trillions et trillions de flacons de neige, ils sont toujours symétriques et ils ont toujours 6 côtés. Et il faut réfléchir, pourquoi pas 4 et pourquoi pas 3. Et donc on a compris que scientifiquement, les scientifiques ont vu que un flacon de neige a seulement un dessin unique dans tout le monde entier. Celui-ci, par exemple, ce dessin-là, vous ne pouvez pas trouver un deuxième dans tout le monde entier. Donc, si vous prenez dans la main de trillions de trillions de flacons de neige, chacun a un autre dessin. Comme celui-ci, par exemple. De plus, voilà. Et voilà. Et si les évolutionnistes ne sont pas convaincus, voilà. De plus, voilà. Marchant. Trillions de flacons de neige ayant différentes dessins dans tout le monde entier. Et dans ces flacons de neige, il n'y a pas de vitalité. Les mutations ne peuvent pas faire. Ne peuvent faire rien du tout parce qu'il n'y a pas de l'ADN. La sélection naturelle ne peut faire rien du tout parce qu'il n'y a pas la vitalité. Ça se consiste seulement de H2O. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est tout. Et la cristallisation de cette H2O dans les cieux forme ces dessins-là. Et ça nous montre seulement une seule fait scientifique que c'est Allah seul qui peut créer de milliers de flacons de neige ayant différents dessins comme ça. Donc, la troisième question, c'est y a-t-il aucune preuve de fossiles prouvant l'évolution? Fossiles, qu'est-ce que ça veut dire un fossile? Un fossile, ce sont les vestiges des êtres vivants qui ont vécu dans le passé. Et en regardant sur ce fossile, on peut voir les structures organelles de, par exemple, de ce poisson qui s'appelle Solecanthe. Ce fossile-là, il est âgé de 140 millions d'années. Et on voit que tous les organes sont complets et parfaits, et on ne voit pas un organe qui est mi-développé. On ne voit pas une asymétrie, on ne voit pas une pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire une pathologie? Par exemple, la jambe qui sort du dos, ou bien les yeux qui sortent du ventre. Tous les organes sont très bien définis, pas mi-développés. Si vous regardez, si vous payez attention, ces deux images, c'est l'image d'un poisson, d'un seul écran vivant aujourd'hui. Tous les organes sont identiques, c'est exactement la même. Donc ce qu'on voit sur les fossiles, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pour 140 millions d'années. Où est l'évolution? Il n'y a pas d'évolution. Et il y a, nous avons aujourd'hui, les scientifiques ont enterré plus de 350 millions de fossiles qui appartiennent aux espèces stables. Stable, qu'est-ce que ça veut dire? Avec les organes complètes, parfaits et fonctionnants. Donc, les évolutionnistes, selon l'assertion, toutes ces espèces stables se sont transformées à partir d'un à l'autre. Et donc, à la fin, l'être humain s'est évolué à partir des singes. Donc, ils n'aiment pas utiliser le mot singe, mais ils disent un ancêtre commun. Mais ce n'est pas important du tout. Et, bon, ce qu'il doit faire, c'est de nous montrer des fossiles intermédiaires, ça veut dire transitionnels, avec des organes incomplets, comme celui-ci que je vais vous montrer, par exemple. Des organes incomplets, imparfaits, mi-développés, selon la théorie, ils disent que l'étoile de mer s'est transformée en un poisson dans une période de 100 millions d'années. 100 millions d'années. Donc c'est très bien, hein? 100 millions d'années, pas 1, 2, 10 ou 20. Des millions d'années. Donc, cette période-là, nous devons voir des formes intermédiaires. De milliers, en nombre, ils doivent être en milliers de milliers. Parce que cette transformation-là que nous avons représentée avec trois différentes illustrations, donc, il devait être, en fait, de plusieurs, de centaines, de milliers de petites transformations graduelles. Lent, c'est pas vite, des changements minuscules et cumulatifs, comme monter les escaliers. Donc, petit par petit, cet être vivant, étoile de mer, doit se transformer en des poissons. Donc, est-ce qu'ils ont des fossiles qui montrent ce processus-là? Donc, on va voir, les fossiles nous montrent un seul fait. Les fossiles d'étoiles de mer, nous en avons, oui, de milliers de fossiles d'étoiles de mer. On peut vous le montrer, même si nous avons ici, j'en suis pas sûr. Mais il y a des fossiles aussi, des milliers de fossiles qui appartiennent aux poissons ici. Et est-ce qu'il y a des fossiles de forme intermédiaire comme ça? Non, il n'y en a aucun, il y en a zéro. Et le nombre, il faut bien réfléchir dans ce processus. Dans le passé, il devait y avoir des trillions de fossiles. Parce que si nous avons, au début, par exemple, ce processus qui est, ces fossiles-là, si nous avons, disons, 10 000 fossiles d'étoiles de mer et 10 000 fossiles de poissons, ce processus, en nombre, devait être en des milliers, des trillions de fossiles intermédiaires. Nous devons trouver dans la crasse de la Terre. Si on ne peut pas trouver, on ne peut pas parler de ce processus. Donc, les évolutionnistes n'ont aucun. D'autre part, M. Adenauer a promis, il a dit dans la télévision, dans ce programme, que à qui il va donner 7 millions de dollars, à qui peut apporter un seul forme intermédiaire, un seul forme transitionnelle. Un fossile d'un forme intermédiaire. Donc, pour au moins de 3 années, personne n'a pu apporter de tel fossile. Donc, plus de 350 millions de fossiles nous avons, et tous ces fossiles-là appartient aux espèces, aux individus stables. Ça veut dire avec tous les organes parfaits et complets, tout fonctionnant. Et il n'y a aucune évolution qu'on peut voir. Donc c'était premièrement Charles Darwin qui avait été inquiet et qui s'est inquiété sur ce sujet. Il a dit dans son livre, si les espèces dérivent d'autres espèces par des degrés insensibles, pourquoi ne rencontrons-nous pas d'innombrables formes de transition? Il se demande pourquoi je ne vois pas des formes intermédiaires dans la nature. Si sa théorie est vraie, il devait voir ça. Et il continue, pourquoi tout n'est-il pas dans la nature à l'état de confusion? Il veut voir une confusion dans la nature. Confusion, qu'est-ce que ça veut dire? Et les organes qui sont incomplets, asymétriques, pathologiques, un genre qui sort de l'os. Des créatures absurdes. Il a voulu voir dans la nature, mais il n'y en a aucun. Et il continue, pourquoi les espèces sont-elles si bien définies? Il dit que toutes les espèces sont parfaitement définies avec leur organe parfait et complet. Et il continue, il dit, pourquoi ne trouvons-nous pas des dépôts riches en fossiles appartenant à ces périodes primitives? C'est là une question à laquelle je ne peux pas faire aucune réponse suffisante. Donc, il n'a aucune réponse. Bien sûr, il ne peut pas avoir une réponse pour ça parce que l'évolution dans le passé n'a pas eu lieu. Bon, cette période-là, on s'appelle la période cambrienne. Peut-être le mot cambrienne n'est pas très familier avec vous. Je peux expliquer un petit peu. C'est dans cette période-là que les paléontologues, la paléontologie, nous trouvons des fossiles qui appartiennent aux premiers êtres vivants dans tout le monde entier. Et ça représente à peu près de 520 millions d'années à 550 millions d'années avant de notre jour. Dans cette période-là, il y a plus de 50 différents phylums. Phylum, c'est un mot latin, ça veut dire des groupes des animaux. Par exemple, les invertébrés est un phylum, ou bien les mollusques sont un phylum. Tout d'un coup, à la période cambrienne, 50 différents phylums apparaissent soudainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Création. Les scientifiques l'appellent l'explosion cambrienne. Il y a l'apparition soudaine de tous les phylums. Ils n'ont aucun ancêtre préalable. Ça veut dire qu'on ne peut pas montrer un être vivant qui peut être l'ancêtre de ces animaux-là. Il n'y a aucun animal qu'on peut montrer qui peut être le candidat à être l'ancêtre de ces animaux. Il y a une complexité chez les animaux qui ont vécu dans la période cambrienne. Ils ont des circulations de sang, par exemple, ils ont des yeux qui sont très complexes. Je vais vous montrer un exemple. C'est Stephen Jay Gould. Il est mort maintenant, mais il était un évolutionniste. Il a dit sur ce sujet, les archives fossiles ont causé à Darwin davantage de peine que de joie. Rien ne l'attristait plus que l'explosion cambrienne, l'apparition de presque tous les concepts organiques complexes. Si vous vous rappelez, au début de mon discours, je vais vous montrer l'agriculture. Qu'est-ce qu'il disait? Si on voit que tous les êtres vivants, si on les voit apparaître tout d'un coup dans le passé, on doit admettre que la vie a été créée, il disait. Et voilà, les scientifiques admettent que la vie a été, on voit les êtres vivants qui apparaissent soudainement, quand? À la période cambrienne. Voilà, un trilobite. C'est un animal qui a vécu dans le passé, qui est éteint aujourd'hui. On ne peut pas trouver des trilobites maintenant, mais c'est l'œil qu'il a. C'est le premier œil vivant sur la Terre. Et il est âgé de 520 millions d'années. Et quand on analyse son œil en agrandissant, on voit qu'il consiste de petites formes cellulaires. Et dans chaque forme cellulaire, on voit, par exemple dans ceci, on peut voir il a deux lentilles différentes. Chez les êtres humains, nous avons deux lentilles. Mais dans un œil du trilobite, il y en a 800. Donc chez, il y a deux yeux, nous avons, un seul trilobite a totalement 1600 différentes lentilles qui servent à voir d'une manière très complexe dans les profondeurs des océans. Et il peut résister à la pression dans les profondeurs des océans de cette manière-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait une comparaison avec les êtres vivants qui vivent aujourd'hui, par exemple les insectes qui vivent aujourd'hui, ils ont exactement la même manière de complexité dans ces yeux. Ce sont les yeux d'une mouche que vous voyez ici. Et voilà le premier œil, dans le passé, les premiers qui ont 520 millions d'années, ils sont âgés de 520 millions d'années. Est-ce qu'il y a eu changement de niveau de complexité chez les êtres animaux? Non, il n'y en a aucun. Mais les évolutionnistes disaient que, si vous vous rappelez, quand on montait les escaliers, les êtres vivants évoluent, ils disent, d'une manière primitive à un niveau complexe, comme monter les escaliers. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce que vous voyez un changement ou une élévation de niveau de complexité entre ces deux êtres vivants? Non, il n'y en a aucun. La complexité de trilobite, de l'œil de trilobite, était exactement la même complexité si on fait une comparaison avec les insectes vivants aujourd'hui. Donc, cette preuve scientifique nous montre qu'il n'y a pas eu d'évolution dans le passé. Voilà. Mais il y a aussi des suppositions. Ils prétendent que, les évolutionnistes prétendent que, les poissons ont décidé un jour de marcher sur la Terre. Donc c'est une supposition qui est très sérieuse. Parce que vous savez que quand on pêche un poisson, dans quelques minutes, il meurt. C'est tout simple. Comment se fait-il? Est-ce que vous connaissez un poisson qui a le luxe d'aller vers la Terre et attendre pour des milliers d'années qu'une mutation vient et change les codes génétiques dans son ADN et que ça se transforme en un délectique? C'est absurde. C'est absurde. C'est illogique, c'est irrationnel, c'est pas scientifique du tout. Parce que les poissons sont très complexes, les reptiles sont très complexes. Si on doit expliquer ça, par exemple, les poissons ont des nageoires, comme vous savez, les nageoires doivent se transformer en des pattes. Et ça ne suffit pas. Les poissons respirent par les branchies, comme vous savez. Les branchies et les poumons chez les reptiles sont deux organes complètement différents. Complètement différents. Parce que les branchies utilisent l'oxygène qui est mélangé dans l'eau, comme vous savez. Et les poumons sont capables d'utiliser l'oxygène qui est mélangé dans l'eau, dans l'atmosphère. Et ces deux fonctions génétiques sont complètement différentes. Donc, est-ce qu'il y a un système dans la nature qui peut ajouter une information dans les gènes des poissons pour que ces branchies-là se transforment en des poumons? Non, il n'y en a aucun. Nous avons vu, les mutations ne peuvent pas faire rien du tout. Le mécanisme porteur du poids des poissons est adapté aux conditions sous-marines, donc le mécanisme porteur devrait être adapté aux conditions terrestres. Donc ce n'est pas possible du tout non plus. Le métabolisme des poissons est adapté aux conditions sous-marines, il devrait être adapté aux conditions terrestres. On voit que c'est très simple, ce sont deux animaux qui sont très très différents, et l'information génétique chez deux êtres vivants n'est pas possible du tout dans le temps qui se transforme, ce n'est pas possible. Ils ont dit que ce lecante était un exemple de forme intermédiaire entre les poissons et les reptiles, mais je ne vais pas expliquer en détail. Nous avons vu que ce lecante est, par exemple, Curtin Latimer est un scientifique à l'Afrique du Sud, il a pêché plusieurs exemples de ce lecante vivante. Et donc on a compris que ce n'était pas une forme intermédiaire entre les poissons et les reptiles. Et il doit nous expliquer aussi l'origine des oiseaux, l'origine du vol, parce que c'est très complexe. Il y a comme vous savez, des oiseaux qui peuvent battre des ailes en 2000 fois par une seconde, en une seconde. Donc, le vol, c'est très très complexe. La structure des plumes, la structure des ailes sont très complexes. Quel est l'ancêtre des oiseaux? Ils doivent nous montrer un candidat pour être ancêtre des oiseaux. Donc, ils ont une explication très intéressante. Ils ont choisi un groupe d'animaux. Ils ont dit que les reptiles sont les ancêtres des oiseaux. Parmi les reptiles, ils ont choisi un animal très intéressant qui est le dinosaure. Ils ont dit que les dinosaures se sont transformés en des oiseaux. Voilà, c'est très intéressant. Ils ont deux explications, deux théories soi-disant scientifiques. Ils ont donné des mots latins. Ils disent la théorie cursoriale et la théorie arboricole. Donc je vais vous expliquer et vous allez juger pour vous-même s'ils sont scientifiques ou pas. Ils disent que les dinosaures comme ça, ils se sont transformés en des oiseaux. C'est la théorie cursoriale. Et quand on demande comment se fait-il qu'un dinosaure peut se transformer en un oiseau, ils disent qu'un dinosaure qui essaie d'attraper une mouche pour la nutrition, pour manger, dans le temps, ses pattes de devant, comme ça, se sont transformées et voilà, il est en poursuite de la mouche et à la fin, hop là, il est capable de voler. Donc, c'est une explication. Et ce n'est pas nous qui les avons dessinés, hein. ce sont des illustrations que nous avons prises des sources évolutionnaires, dans les antiquités évolutionnaires, ce n'est pas notre explication. Donc, cette explication-là est très absurde, parce qu'il y a un élément dans ce scénario-là. Et premièrement, il faut réfléchir. Les évolutionnistes essayent de nous expliquer l'origine du vol, n'est-ce pas? Du vol, l'origine du vol, comment les oiseaux ont pu voler. Donc, dans ce scénario-là, en essayant d'expliquer l'origine du vol, ils utilisent un autre animal qui vole déjà. Ce petit mouche-là. Ce mouche vole déjà. Donc, la question c'est, ne serait-il pas plus facile d'expliquer l'origine de cette petite mouche-là au lieu de faire voler ce dinosaure extravagant? Bon, mais les évolutionnistes n'ont aucune explication à supposer parce que on sait très bien que la mouche ne vole pas d'une manière simple. Il bat les ailes en 1000 fois en une seconde. Et comme vous savez, quand l'être vivant devient plus petit, la complexité de la technologie devient plus complexe. Et la mouche ne vole pas d'une manière très simple. Comme vous savez, si vous voulez attraper une mouche, ce n'est pas facile du tout. Ils peuvent faire des manœuvres très rapides. Il peut aller sur le toit, il peut se renverser sur le mur, sur le rideau, et vous ne pouvez pas l'attraper. Donc ce n'est pas facile du tout. Et les évolutionnistes n'ont aucune explication sur l'origine du vol de la mouche.
Dis-moi.
Les questions, s'il vous plaît, après le disque de Charles. Et ils ont dit que l'Archaeopteryx, le fossile de l'Archaeopteryx, un soi-disant forme transitionnelle, intermédiaire, était les ancêtres des oiseaux. Mais on a compris que scientifiquement, ce n'est pas possible parce que on a compris que l'Archaeopteryx était un oiseau volant. Et la magazine Science a accepté ce fait. Et ils ont dit l'Archaeopteryx ne peut probablement pas nous dire grand-chose sur les origines des plumes et du vol chez les vrais oiseaux, parce que l'Archaeopteryx était au sens moderne un oiseau. Le magazine Science, c'est un magazine qui est connu pour être évolutionniste et athée. Donc, ils ont accepté celui-ci. Et donc, de plus, nous avons trouvé des... pas nous, mais les scientifiques ont trouvé des fossiles appartenant aux autres oiseaux qui vivaient dans la même période avec Archaeopteryx. Par exemple, Compitius oriste, âgé de 120 millions d'années, et Lianigoris, âgé de 120 millions d'années, et on a compris que les Archaeopteryx ne pouvaient pas être l'ancêtre des oiseaux. Et comment les mammifères marins sont-ils appelés? Quels sont les ancêtres des mammifères marins? Donc, et c'est même un grand problème pour les évolutionnistes parce que, comme vous savez, les mammifères marins, par exemple, comme les baleines, il y a des baleines qui pèsent 60 tonnes, qui a une longueur de 40 mètres, 30 mètres. Donc, est-ce qu'on peut montrer un être animal aussi grand peut être l'ancêtre des baleines sur la Terre? Donc, il n'y a pas un être vivant qui est aussi grand qui peut être l'ancêtre des baleines, des mammifères marins. Donc, la première personne qui a supposé comme un ancêtre pour les baleines était Charles Darwin lui-même, et il a dit que c'était les ours. Les ours qui nageait dans les rivières, qui essaie d'attraper des poissons pêchés, sont transformés en des baleines. Mais bien sûr, cette explication n'était pas très scientifique, donc les autres évolutionnistes ont décidé d'enlever cette explication dans les éditions postérieures de son livre. Voilà, le mythe concernant la soi-disant évolution de l'homme. Et donc, comment se fait-il qu'on voit beaucoup d'illustrations comme ça, mi-homme, mi-singe, partout, dans les magazines, dans les télés, dans les manuels scolaires? Donc, à ce point-là, il y a une technique, il y a une tactique utilisée par les évolutionnistes. Premièrement, on sait que dans le passé, il y avait des singes. Et il y avait plus de 6000 espèces de singes qui ont vécu dans le passé. Et aujourd'hui, nous avons seulement 142 ou 145 espèces différentes de singes qui vivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart, la majorité des espèces de singes ont éteint. Et les évolutionnistes utilisent les fossiles, les vestiges de ces singes qui ont disparu dans le passé. Ils les prennent, par exemple, ils prennent les crânes, les os, les mâchoires de ce singe-là, et ils alignent dans une chaîne imaginaire à partir de leur volume de crâne, par exemple, ou la longueur des os. Et donc, ils font une telle arbre imaginaire. Et à la fin, ils ajoutent les os et les crânes des hommes, des espèces de l'homme, des races de l'homme, qui sont éteintes dans le passé. Par exemple, comme le Néandertal. Le Néandertal était des hommes sociaux comme nous, qui n'étaient pas primitifs. Mais leurs races sont éteintes aujourd'hui. Donc, ils prennent les crânes, les os de Néandertal et ils mettent ça juste à la fin. Mais donc, c'est une explication qui peut être collecte dans les contes, par exemple. Si ils nous expliquent ça comme des contes, on peut accepter. Parce que de telles choses, on peut les voir dans les contes. Par exemple, les grenouilles. et se transforment en des princes. C'est possible, mais seulement dans les contes. Mais s'il nous dit ça, au nom de la science, et on doit répondre, c'est pas possible du tout. Dans l'histoire de la vie, il y a eu des sages et ils continuent à exister, c'est un fait. Il y a eu des hommes et ils continuent à exister, mais des créatures, mi-singes, mi-hommes, n'ont jamais existé. Par exemple, un soi-disant mi-homme, mi-singe qui sont supposés par les évolutionnistes, c'est Lucy. Astrophytique afférentiste veut dire le singe de l'Afrique du Nord. Ils ont dit que c'était mi-homme, mi-singe, mais après on a compris que c'était seulement une espèce de singe. Et c'est Science et Vie, le magazine scientifique de France, qui ont accepté ce fait. Il dit, une nouvelle théorie déclare que le genre Astrophytec n'est pas la racine de la race humaine. Les grands primates, considérés comme les ancêtres de l'homme, ont été retirés de l'équation de cet arbre généalogique. Donc, ce que les évolutionnistes font, ils trouvent une vestige, une fossile, immédiatement, ils donnent un nom latin. Ils disent voilà votre ancêtre, mis au message, et ils commencent à préparer des articles scientifiques sur ça, ils mettent des recherches dans les manuels scolaires, et pour des années, ils continuent à faire, à raconter de tels contes comme ça. Mais à la fin, après des années, on voit que ce sont des fraudes. Ou bien on comprend que c'est seulement une espèce de singe ou bien une espèce de l'homme qui a été éteinte dans le passé. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, ils ont dit que l'homme de Néandertal, voilà, ils ont dit, votre ancêtre mis en 1856, et ils ont dit en 1960, excusez-nous, nous avons compris que scientifiquement ce sont des hommes. Une race de l'homme qui est éteinte dans le passé. L'homme de Big Town, l'homme du Nebraska, Zinjan Jourdous, la même architecte, tous ces fossiles-là, ils ont été proposés en ces années-là et ils sont annulés en ces années-là. Et je vais expliquer. Ils ont des fraudes. Par exemple, ils font des reconstructions fausses, ils utilisent des dessins comme ça. Donc, il faut bien voir le fraude qu'ils ont fait sur ce dessin. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce dessin. Est-ce que vous pouvez le voir? Ce sont les yeux. C'est un orang-outan. Mais les yeux de l'orang-outan ont été enlevés et ils ont mis les yeux des hommes pour donner un message à vos sous-conscients que vous étiez comme vous étiez un créateur comme ça dans le passé. Mais donc, ça n'a aucune valeur scientifique. Pourquoi? Parce que les tissus organelles ne laissent aucune trace sur les os. Je répète, les tissus organelles ne laissent aucune trace sur les os, sur le crâne. C'est de cette manière qu'ils produisent, ils prennent des masques des hommes dans les ateliers et ils font comme ça et à la fin, ils peuvent obtenir des résultats si réalistiques que ces créatures-là ont vécu dans le passé et ils étaient capables de poser pour un photographe. Vous voyez, c'est très réaliste. Mais Ernst Houghton, un évolutionniste, dit ce fait, tenter de reconstituer les tissus organiques est une entreprise encore plus hasardeuse. Les lèvres, les yeux, les oreilles et les extrémités nasales ne laissent aucun indice décédable sur les parties osseuses sous-jacentes. Les tissus organiques qui sont les cheveux, les yeux, les oreilles, le nez, vous ne pouvez pas deviner. Même si vous avez toute la squelette entière, vous ne pouvez pas deviner la couleur des cheveux. Par exemple, la structure du nez, la structure des oreilles, la structure des lèvres. Vous ne pouvez pas deviner ce ça. Vous prenez un crayon dans la main. Si je veux, je peux dessiner ce crâne comme un philosophe, ou bien je peux dessiner ce crâne comme un singe. Mais ça n'a aucune valeur scientifique. Il continue. On peut ainsi tout aussi bien modéliser sur un crâne néandertalien les traits d'un chimpanzé que les lignes du visage d'un philosophe. Ces soi-disant restaurations d'anciens types humains n'ont qu'une très faible valeur scientifique, voire pas du tout, et elles ne peuvent qu'induire en erreur le public. Aussi, ne vous fiez pas à ces reconstructions. Voilà, aucune valeur scientifique. Mais les évolutionnistes sont très capables d'utiliser leur imagination. Voilà, un dessin à partir d'un seul fossile ou un seul os ou crâne. Voilà le dessin qu'ils peuvent dessiner. Cet homme-là, sa femme et l'enfant, vous voyez, est en train de prier. Donc, c'est seulement le talent artistique basé sur le théorie. Voilà, trois illustrations différentes basées sur un seul crâne. Ils ont trouvé un seul crâne et ils ont dessiné, ils ont fait trois dessins différents dans trois sources différentes évolutionnistes. National Geographic, Mauritius Assembly House. Dans des années différentes, ils ont pu dessiner de différents dessins, différentes illustrations. Et donc, une vraie fraude, l'homme de Nebraska, ils ont trouvé un seul dent au Nebraska, aux États-Unis, en 1912. Ils ont dit que voilà, votre ancêtre, mi-homme, mi-singe. Et ils ont commencé à préparer des articles, et ils les ont publiés dans les magazines scientifiques pour des années et des années. Et ils ont fait des illustrations, comme celui-ci. Voilà, l'homme de Nebraska, avec sa famille. À partir d'un seul dent, ils ont pu deviner l'homme de Nebraska avec les cheveux longs, vous voyez, l'environnement dans lequel il vivait, et de plus, les animaux-là, et de plus, les instruments qu'il utilisait. Et donc, les autres scientifiques ont dit, et vous exagérez, hein, vous ne pouvez pas deviner toutes ces choses-là à partir d'un seul temps. Une seule temps. Donc, ils ont fait des autres recherches dans le même endroit, dans le même milieu. Et ils ont trouvé les autres vestiges de l'être vivant. Ils ont vu que ce dent-là n'appartenait pas à un homme, et ce dent-là n'appartenait pas à un singe non plus. Ils ont vu que ce dent-là appartenait à un corps sauvage. Voilà. Un seul dent d'un corps sauvage et ils ont pu nous tromper toute l'humanité pour des années que nos ancêtres étaient des créatures mi-hommes, mi-singes. Un autre front. Voilà. Ce sont les scientifiques. Regardez les expressions sur le visage. Un bonheur, vous voyez. Ce sont les scientifiques les plus graves, les imposteurs dans l'histoire de la science. Ils ont dit, au début du XXe siècle, ils ont dit, voilà, nous avons trouvé notre ancêtre de l'homme qui est âgé de 400 000 années, et ils ont donné un nom, ils ont dit Pitaman. Et ils ont pris ce crâne-là, ils ont mis dans le British Museum en Angleterre. Ils ont commencé à exposer, ils ont montré ça aux étudiants, ils ont préparé des soi-disant articles scientifiques. Mais après des années, après 45 années, un autre scientifique qui s'appelle Charles Wrongley a deviné une méthode de datation. Cette méthode s'appelle la datation de fluorine. Et Charles Wrongley a commencé à dater les os qui se trouvent dans le British Museum. Et quand il a fait cette méthode de datation sur le Pitaman, il a vu que l'âge de la crâne et l'âge de la mâchoire n'étaient pas la même, étaient différents. Ils ont compris que ces scientifiques-là, ils ont pris la mâchoire d'un orang-outan et attaché à un crâne humain. Donc ce crâne humain n'était pas âgé de 400 000 années, mais c'était âgé de seulement 500 années. Et la mâchoire était tout nouveau. Et donc, ils les ont attachés et ils ont teinté ça dans le bichromate de potassium pour le faire vieillir, pour le montrer plus vieux. Donc, plus de 45 années, ils ont raconté des histoires, ils ont raconté que ce créature-là était notre ancêtre. Henry G., éditeur en chef du magazine Nature, un magazine évolutionniste. Prendre une ligne de fossiles et prétendre qu'il représente une ligne n'est pas une hypothèse scientifique qui peut être mise à l'épreuve, mais une affirmation qui a la même validité que des histoires amusantes ou l'heure du coucher. Peut-être même instructif, mais non scientifique. Donc, ce qu'on a vu, c'est la science est antidarwiniste. À tous les niveaux des explications de la théorie de l'évolution, juste à la première stade, il ne peut pas expliquer la formation d'une seule protéine par chance. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve scientifique qui ne peut nous montrer ce processus évolutif, ce sont les possibles. Et donc, il ne peut pas expliquer les mécanismes de la théorie de l'évolution. Donc, la science est au service de ceux qui croient en Dieu. La science nous montre que c'est Allah qui a créé tous les êtres vivants. Inch'Allah. Et je voudrais terminer par un verset dans le Coran. Allah nous dit, c'est nous qui vous avons créé, pourquoi ne croiriez-vous donc pas? Donc, Inch'Allah, ne vous en doutez jamais que c'est Allah qui a créé tous les êtres vivants, les yeux, la terre et tous les êtres vivants qui sont plus grands. Merci beaucoup pour m'écouter.